Vous allez voir, j'ai une voix qui porte. Si les femmes en arrière veulent s'avancer, s'il vous plaît. Je vais même vérifier, il n'y a pas personne ici. Parce que je suis trop petite, je ne les vois pas. OK, c'est correct. Je pense que j'aurais pu être une vedette facilement, moi. Savez-vous pourquoi? Là, j'ai le trac, vous ne savez pas comment. Mais bon, enfin, c'était mon seul côté vedette. Comment? Ouais. Eh bien, on vous souhaite la bienvenue à toutes au nom de l'Assemblée chrétienne du Cap-de-la-Madeleine. Ça nous fait plaisir de vous voir ici. Je suis en train de me dire dans ma tête, j'aimerais mieux être assis là, par exemple. Là. Ça va passer. Et puis, on vous remercie de vous être déplacés. Je sais qu'il y en a qui sont venus d'assez loin. J'aimerais ça d'ailleurs peut-être faire un tour de salle pour voir la provenance des personnes, parce que je ne connais pas tout le monde. Puis je me dis, il y en a sûrement qui viennent d'endroits... pas isolés, j'aime pas le mot isolé, mais d'endroits plus éloignés. Plus éloignés. Oui. Ben, si vous avez rencontré un lapin sur la route en vous en venant, c'est parce que vous venez de la Tuque, je suis sûre. C'est ça? OK. Levez donc la main ceux qui viennent de la Tuque. Combien il y a de personnes? OK. C'est beau. On en a... ça se peut-tu que j'ai entendu de la Gaspésie? Ça se peut... Oui? OK. Bienvenue. Ça se peut-tu aussi que j'ai entendu de Cabaneau? Cabaneau, oui. Bienvenue. Ça se peut-tu que j'ai entendu du Cap? Ah, OK, OK. je pense qu'il y en a aussi de grand-mère. C'est ça, une belle gang aussi. Bienvenue. De quel endroit que j'ai oublié? Trois-Rivières, excusez-moi. Excusez-moi. Bienvenue, bienvenue. Québec? Québec ou Saint-Jean-Chrysostome? Saint-Jean-Chrysostome, bienvenue, mesdames. Pardon? J'ai pas compris. Granby. Ah, bienvenue, Granby. Ah, ben c'est une belle brochette. Bienvenue, mesdames. Montréal. Montréal. Oui. Montréal. Ben je pense que c'est un petit peu faussé dans ce cas-ci, là, par exemple. En tout cas, on va en reparler plus tard, mais je pense que c'est une demi-vérité. OK, je vais tout de suite vous tracer... Bon, je l'ai oublié, mais je le sais par cœur. Je vais tout de suite vous tracer l'horaire de la journée pour vous dire un petit peu comment ça va se passer. On était supposé de commencer à 9h, on a à peu près 20 minutes de retard. On s'en excuse, c'est nos sœurs de la Tuque qui se sont perdues apparemment. Ça prend la... Écoutez, je suis quand même une descendante d'Ève, il faut que je mette la faute sur quelqu'un. Bon. Alors, et voilà. Alors, l'horaire de la journée, c'était supposé de commencer à 9h, on commence à 9h20. Alors, là, je recule tout d'une demi-heure, ce qui veut dire qu'à vers 10h moins 10 à peu près, on devrait être prêt à commencer avec notre conférencière. Ensuite, là, c'est parce qu'il faut tout que je décale, là. Écoutez, je vais vous donner l'horaire réel, OK? Ensuite, à 10h30, on a une pause, OK, qui va durer à peu près une demi-heure. Et d'ailleurs, après la pause, quand on va revenir à 11h, je ne reviendrai pas ici, c'est nos sœurs qui vont nous faire un chant, et ce sera le signal pour nous dire de revenir en avant, parce que tout de suite après le chant, ce sera notre conférencière qui va recommencer sa deuxième partie. D'accord? Mais je vais le répéter ça tout à l'heure. Ensuite, notre conférencière va faire une autre session pendant 1h, ce qui veut dire que vers midi, on devrait être prête à aller dîner jusque vers 1h. À 1h, on recommence. Il va y avoir encore une partie informelle avec des chants. À 1h30, notre conférencière va donner sa dernière partie. Et puis, après ça, on va clore. Il va y avoir aussi une table de livres et tout ça. Alors, vers 3h30, à peu près, tout devrait être fini. la journée devrait se terminer là. Il va y avoir une période de questions à la fin, mais tout ça, je vais tout vous expliquer ça à mesure qu'on va s'en aller. Ça vous va? Bon. OK, aujourd'hui, le thème de la journée, c'est le contentement, un mode de vie qui s'apprend. Là, je vais vous dire une affaire. C'est que nous, ici, à l'Assemblée du Cap, ça fait plus qu'un an qu'on sait... Là, je parle trop proche du micro, ça fait-tu des résonances? Non? OK. Ça fait au-dessus d'un an qu'on sait qu'il est pour avoir ce thème-là. OK? Puis moi, quand je l'ai su, je vais vous avouer, là, j'étais... Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'avais hâte que l'année passe pour arriver à cette journée-là. Mais il faut dire une chose, c'est qu'à ce moment-là, je ne savais pas que j'animerais là. OK? Je ne le savais pas encore. Mais j'avais tellement hâte parce que pour moi, ça fait des années, je pense que depuis que je suis chrétienne, que pour moi, le contentement, c'est, je pense, le sujet qui, un des trois sujets en tout cas, qui me passionne le plus. Parce qu'à mon avis, et Madame Hish pourra nous en parler, mais à mon avis, le contentement, c'est le secret d'une vie heureuse. C'est vraiment le secret d'une vie heureuse dans tous les domaines. Que je pense au domaine des relations avec les gens, que je pense au travail, aux biens matériels, que je pense à n'importe quel domaine. Je pense que quand quelqu'un a appris le contentement, il n'y a plus ou presque plus rien qui le dérange. Puis ça, pour moi, c'est une richesse, là. Il n'y a pas personne qui peut nous enlever ça, finalement. Mais en tout cas, ce n'est pas moi la conférencière, là, je ne m'embarquerai pas trop loin. Mais c'est une chose que je me rendais compte que Job avait compris. Vous savez quand Dieu, vous savez ce que Job a vécu, et Job a dit à un moment donné, Dieu a repris, que Dieu soit béni. Et ça, c'est, j'avoue que c'est, quand on comprend tout ce qu'il a vécu, j'avoue que c'est une phrase qui est assez... assez particulière, assez. Quand on arrive à dire ça, j'avoue qu'on a compris quelque chose. Il y avait Paul aussi qui l'avait compris, hein? Il avait dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Paul l'avait compris. Et puis moi, je lis beaucoup, beaucoup de biographies, et dans toutes les biographies, je pense que je lis de personnes qui ont œuvré dans le milieu chrétien, c'est tout ça qu'on voit à travers leur vie, le contentement, ça revient constamment. Et puis, en parlant de biographie, mais je pense que je vais tout de suite vous présenter notre conférencière, Madame Hish, I-S-C-H, OK? Parce que j'avoue qu'au début, je me demandais comment le prononcer. Je pense que je suis correcte, hein, quand même. Madame Sula Hish. Et là, je vais vous avouer, quand j'ai lu son témoignage, parce que là, je lui ai écrit à Madame Hish cette semaine, et je lui ai dit, pouvez-vous m'envoyer une courte biographie? Et alors là, quand je l'ai reçue, et que j'ai lu le premier paragraphe, j'ai dit, je pense qu'on s'est mal comprise. Parce que j'ai dit, je pense qu'elle m'a envoyé une paraphrase des Actes des apôtres. Et là, c'est que, je vous explique, c'est que quand j'ai lu le premier paragraphe, il y avait des mots qui ressortaient du texte. Par exemple, il y avait Grèce, il y avait ville de Philippe, les Philippiens, OK, la ville de Philippe, il y avait Thessalonique, il y avait maison ouverte au témoignage. Là, je me suis dit, mais voyons donc, là, je suis en train de lire les Actes des apôtres, mais une autre version. Là, j'ai dit, mais non, là, je vais me reprendre. Et j'ai relu la biographie, c'était pas ça, mais vraiment, je me suis sentie transportée dans un autre temps, vraiment. Alors, je vous présente très brièvement Madame Hish, et je vous dis, c'est très brièvement. Madame Hish est née en Grèce, dans une ville près de Philippe, la ville de Philippe. Le nom de la ville, c'est Drama, c'est ça. Une ville qui est près de Philippe. Et alors, ses parents se sont convertis alors qu'elle-même, elle était très jeune. Et c'est pour ça que, justement, ils ont ouvert leur maison au témoignage chrétien. Donc, c'est pareil comme dans les Actes des apôtres, sauf que ça s'est passé dans notre monde contemporain. Et alors là, bon, leur maison est vite devenue une église et par la suite, une église s'est formée qui a été comme approuvée par le gouvernement grec. Et par la suite, Mme Hish elle-même, elle est allée faire des études pour apprendre le français et l'anglais. Elle est donc allée en Angleterre pendant quelques années, puis en France. Et c'est là, en France, qu'elle a rencontré son époux, Jean, avec qui elle est depuis plusieurs années. Vous pourrez nous en parler. Et là, avec son époux, ils ont commencé à faire de l'évangélisation et à ouvrir des églises dans le centre de la France. Et tout ça, ça a duré pendant 7 ans. Par la suite, ils ont été appelés à aller œuvrer au Libéria en Afrique. Et ça a duré pendant 40 ans. Ils y allaient pour 2 ans. C'était un terme de 2 ans. Mais vous savez comment c'est avec le Seigneur. On se dit, c'est pour un temps, mais Laissons le terme au Seigneur. Ça a duré 40 ans. Et par la suite, bien là, ils ont commencé à voyager de par le monde. Et d'ailleurs, je crois que Mme Hish revient d'une conférence à Toronto, si je ne me trompe pas. Ah, vous y allez demain soir. Voyez-vous, c'est ça que je vous dis. Elle voyage constamment. Alors, c'est sa vie très, très brièvement. Si vous voulez avoir plus de détails, allez la voir. Elle me dit que toute la journée, elle est très, très disponible à discuter avec les femmes. Alors, gênez-vous pas, ça va lui faire plaisir. Bon, voilà. Et maintenant, je pense que je vais tout de suite inviter Doris avec son équipe pour quelques chants. Après quoi, Mme Hish, vous serez invitée à venir ici pour commencer la conférence à proprement parler, après les chants. Alors, bonne journée, bonne conférence.
Et bonjour, mes sœurs. Je peux parler juste au féminin aujourd'hui? Ça va bien? C'est vraiment agréable de tous vous avoir ici. Merci de vous être déplacés, d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, je trouvais que c'était un bon chant pour commencer notre journée quand le vol de la tempête. Avez-vous déjà eu une tempête? Ou vu? Alors, voudriez-vous vous lever, s'il vous plaît?
Pour ta
avec le numéro 299. Chaque jour.
Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment te dire merci encore une fois pour toutes tes bontés et pour ce privilège, Seigneur, que nous avons ce matin d'être réunis ensemble malgré la distance. Merci d'avoir protégé sur la route chacune de nos sœurs qui viennent de l'extérieur. Merci encore une fois pour notre conférencière et je te prie de l'entourer, de lui donner les mots, Seigneur, afin que tu nous parles. Je prie de disposer chacun de nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse être réceptifs et qu'on puisse sortir d'ici aujourd'hui, afin qu'on puisse te glorifier, Seigneur, et apprendre le contentement
Et tout ça, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour ta plus grande gloire. Amen.
Bonjour. Enfin, le jour est arrivé pour se réunir ici. En effet, le comité de femmes m'avait invité déjà il y a un an. Elle s'était mise bien dans mon calendrier. Entre-temps, j'ai fait le tour du monde presque. Et je vous arrive d'Ottawa où j'étais la semaine dernière pour une conférence missionnaire. Comme Lise a dit, en effet, je suis grecque, d'origine grecque. Grandi en Grèce, étudié la Bible et non les langues en Angleterre et en France. J'ai 3 enfants et 8 petits-enfants qui sont tous loin. Et à Montréal, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, des jeunes amis et des plus âgés, dont Yolande Morel qui est avec moi aujourd'hui. Elle a laissé sa famille à la maison, à une maison qui est en pleine rénovation, pour m'accompagner. Je la remercie publiquement. Et merci d'être venue de loin et d'être prête à travailler aujourd'hui, parce que nous allons travailler, n'est-ce pas? On va se détendre, mais on va travailler et voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces grands thèmes qu'on se proposait d'étudier ensemble, le contentement. Lise vous a dit pas mal de choses sur moi. Elle a oublié de vous dire qu'il y a 10 ans, ma vie a passé par un tremblement de terre. Et dans un instant, une seconde, le Seigneur, dans sa souveraineté, je ne comprends toujours pas pourquoi, est venu chercher mon cher mari, Jean, un dimanche après-midi, en janvier 99. Donc je ne suis, il n'est plus avec moi, il est avec moi sans être avec moi, il est avec moi avec ses souvenirs merveilleux que je garde, après 36 ans et demi de mariage ensemble, et de service du Seigneur ensemble. On va donc voir ensemble ce grand thème, le contentement et mode de vie qui s'apprend. Et nous basons notre thème sur ce verset merveilleux de l'Épître aux Philippiens. Je suis une Philippienne, j'ai été baptisée à la rivière de Philippe en Grèce. L'apôtre Paul a écrit cette magnifique lettre aux Philippiens à partir de sa prison de Rome. Il était en prison à Philippe lorsqu'il est allé apporter l'Évangile, mais plus tard, il était en prison à Rome. Et de là, il écrit cette épître pour encourager les Philippiens. Et il leur dit, « J'ai en effet appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris. J'ai appris. Je ne le savais pas toujours. » C'est pour cela que je fais comme sous-titre un mode de vie qui s'apprend. J'ai appris à être satisfait partout et dans toutes les circonstances, que j'ai assez à manger ou que j'ai faim, que j'ai trop ou que je n'ai pas assez. Voyez-vous comment l'apôtre Paul il nous donne ce magnifique témoignage qu'il a appris. Donc nous allons voir 3 thèmes aujourd'hui, ou sous tout titre, l'obstacle au contentement, que nous allons voir tout de suite en première session, « Douter de Dieu ». Après, la source et le secret du contentement, c'est Jésus-Christ, et certaines personnes l'ont trouvé, nous allons en voir. Et troisièmement, cet après-midi, à l'école du contentement, un apprentissage à vie, mais qui se vit aussi au quotidien. Un jour, je me suis réveillée d'une personne tôt le matin pour observer le lever du soleil. Oh, quelle est belle la beauté de la création de Dieu, au-delà de toute description. Tout en regardant la nature, je louais Dieu pour sa beauté et pour son œuvre. À ce moment, j'ai ressenti la présence de Dieu tout près de moi et j'ai entendu sa voix qui me disait, « Est-ce que tu m'aimes ?» J'ai répondu, « Mais bien sûr, mon Seigneur, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Sauveur. » Et il a continué, « Si tu étais physiquement handicapé, est-ce que tu m'aimerais encore ?» J'étais perplexe. Je regardais mes bras, mes jambes, le reste de mon corps je me suis demandé combien de choses je ne pourrais pas faire si j'étais en effet handicapée. Toutes les choses que je prends comme acquises, j'ai répondu, ce serait difficile, mais je t'aimerais encore. Alors le Seigneur m'a dit, si tu étais aveugle, est-ce que tu aimerais ma création? Comment pourrais-je aimer quelque chose que je ne peux pas voir? Mais je pensais aux aveugles. Combien d'entre eux aiment Dieu, aiment sa création, sans voir? Donc j'ai répondu, c'est difficile d'y penser, mais je t'aimerais encore. Le Seigneur a continué, si tu étais sourde, est-ce que tu écouterais ma parole? Comment pourrais-je entendre quelque chose étant sourde? Mais à ce moment, j'ai compris. Ce n'est pas seulement avec les oreilles qu'on entend la parole de Dieu, mais avec nos cœurs. J'ai répondu, il me sera difficile, mais j'écouterai ta parole. Et le Seigneur ajoutait, si tu étais muette, est-ce que tu continuerais à louer mon nom? Comment pourrais-je te louer sans voix? Mais je me suis souvenu, Dieu veut qu'on le loue avec nos cœurs, notre âme, peu importe le son qu'on produit. Louer Dieu n'est pas toujours avec un chant, mais avec notre reconnaissance et notre contentement. J'ai répondu, même si je ne pourrais pas chanter avec ma voix, je te louerai avec mon cœur. Et le Seigneur de me dire, pourquoi tu chantes seulement pendant les réunions et les retraites? Pourquoi tu es si centré sur toi-même et sur tes besoins dans ta vie chaque jour? Les larmes coulaient à flot sur mes joues. J'étais embarrassée, j'étais honteuse. Je connaissais le fond de mon cœur et le moment de mécontentement et de gratitude. Le Seigneur, d'une voix très douce, m'a dit, « Je t'ai tant aimé, je t'ai tout donné, tu as ma parole, je réponds à tes prières, je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions, toute cette création est là pour toi, mais tu n'es pas toujours contente et tu murmures très souvent. » J'avais encore honte et je commençais à pleurer. « Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas digne d'être ton enfant. » Le Seigneur a répondu, « Cela vient de ma grâce, mon enfant. Tu es ma création, je ne pourrai pas t'abandonner, je ne pourrai pas cesser à t'aimer, je t'aimerai toujours. » Je n'avais jamais encore pleuré autant dans ma vie, mais j'avais compris ce que le Seigneur voulait me dire et m'apprendre la leçon du contentement. Le contentement est un grand thème et ce thème nous interpelle toutes. Et c'est quelque temps après le décès de mon mari qu'on m'avait demandé de parler à une conférence. Et on a commencé à chercher des thèmes, et ce thème est venu, on peut dire, sur la surface, comme un besoin de chacun de nous. Et j'ai commencé donc à l'étudier, à travailler sur ce thème, que je lui donnais plusieurs fois depuis. Mais pour moi, c'était un défi incroyable, surtout après le décès de mon mari, de parler de contentement et de dire quelque chose qui venait de mon cœur et pas une théorie. Donc, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est le fruit de beaucoup de travail, de réflexion, de prière et surtout de la recherche de la face de Dieu. Qu'est-ce que le contentement? Le dictionnaire nous dit, c'est un état d'âme et de satisfaction. Contentement, c'est la satisfaction en général. Mais moi, j'ai réfléchi et j'ai donné ma propre définition et j'ai dit c'est un état d'âme, le shalom de Dieu, le shalom en hébreu qui veut dire tout, la paix intérieure et la paix de l'âme, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est enracinée dans l'amour et dans la grâce de Dieu. Et c'est un choix qu'on fait à tout moment de notre vie, d'accepter ce qui nous arrive, sans regarder cela, même des choses difficiles de notre vie, comme une punition de Dieu, mais comme une chose qui fait partie de notre vie, parce que c'est ainsi, on souffre dans ce monde, et il n'y a pas que de bonnes choses que nous recevons, n'est-ce pas? C'est l'ordre de tout le monde. Donc, le contentement, ce n'est pas un état d'effervescence, qu'on rit pour n'importe quoi, une joie parfaite, sans peine, sans larmes. Non, c'est un mode de vie qui s'apprend. Nous allons voir donc quels sont les obstacles à notre contentement. D'abord, les obstacles au contentement, c'est de douter de Dieu et de ses actions dans notre vie. Quelqu'un a dit en ouvrant le journal du matin, je ne trouve que des gens mécontents de toutes les couches de la société. Ils sont mécontents de leur travail, de leur salaire, de leurs conditions de vie. Mais sans doute, aussi, ils sont mécontents d'être mécontents. Un grand pourcentage des gens disent tous les matins, j'en ai marre, hein, j'en ai assez, je ras-le-bol. Assez, c'est assez. Cela veut dire qu'ils n'ont vraiment aucune raison d'être reconnaissants, mais ils expriment leur frustration. Il y a bien sûr des sujets de mécontentement. Chacune de nous peut trouver des sujets de mécontentement. Les mécontents sont habituellement ceux qui ont moins de raisons de se plaindre, quelqu'un a dit. Pourquoi on se plaint? Qu'est-ce qui ne veut pas dans notre vie? Est-ce que toujours ça a été comme ça? Est-ce que Dieu nous a créés ainsi? Quand et comment est-ce que le mécontentement a été introduit dans la vie des humains? La Bible, qui est un livre de vie par excellence, nous donne les réponses aux questions que nous nous posons sur la vie. Et le livre de la Genèse, c'est le livre des origines, on peut dire, qui nous présente le plan que Dieu avait pour nous, pour l'homme et la femme qu'il a créé. Nous allons voir quelques exemples de mécontentement individuel et ses conséquences. D'abord, Ève, la première femme mécontente. Le plan de Dieu de l'origine de la création était de voir l'homme et la femme heureux, satisfaits et contents. Lorsqu'il a créé le monde, on se souvient quand on lit les textes bibliques, il était heureux, il était satisfait lui-même. Tout était parfait et Dieu a dit que tout était bon. On voit ce texte dans Genèse 1, 4 et 10. J'ai ici les références. Malheureusement, c'est impossible de prendre le temps pour ouvrir la Bible et lire tous ces versets. Je vous propose que ce soit comme aujourd'hui un début d'étude pour vous. Vous allez continuer à réétudier le thème en voyant ces textes chez vous à l'occasion que vous allez choisir. Donc, on voit comment Dieu était content dans le premier chapitre avec toute sa création. Il a voulu transmettre son contentement au premier couple et il l'a placé dans un environnement agréable et parfait. Même la nourriture qu'il leur proposait était variée. On lit dans Genèse 2:9, il y avait toute espèce agréable à voir et bon à manger. Une fois, j'ai fait une série d'études, vous savez, je travaille en Afrique beaucoup, dans une classe d'école biblique pour femmes au Niger, à Niamey, et on a étudié un peu la nourriture dans la Bible. Et je dis, Dieu a voulu, dès le début, nous donner une variation, une variété de nourriture, des choses qui sont bonnes à voir et aussi à manger, agréables à voir et bonnes à manger. Dieu était le premier diététicien. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éthique, n'est-ce pas, de la bonne nourriture. Mais Dieu était le premier en toutes choses. Il était le premier couturier, le premier inventeur de toutes choses. Imaginez un instant cette scène et cette belle et grandiose propriété privée qui était offerte à ce premier couple. On peut dire qu'il y avait vraiment chaque espèce, comme on voit, de fleurs, de plantes, des arbres. C'était le paradis, un jardin incroyable. Il y avait de belles fleurs, toute espèce de parfums qu'il y avait là, de l'eau qui coulait partout, de belles couleurs, vraiment magnifiques. C'était un endroit incroyable. Les oiseaux chantaient, les ruisseaux coulaient, de l'eau qui n'était pas polluée. Tout était merveilleux. Tout était là pour eux. C'était gratuit. C'était un cadeau. Ils ont ouvert les yeux. Ils se sont trouvés dans cet endroit idyllique, on peut dire aujourd'hui. Tout était un don de Dieu. Et en plus, chaque jour, Dieu le visitait, Dieu bavardait avec eux, il faisait une promenade chaque soir alors que le soleil descendait et il était présent dans ce bonheur que le premier couple vivait et que lui voulait que ce couple continue à vivre ce bonheur. Tout était merveilleux. Combien de temps ça durait? Nous ne le savons pas. Où était donc le problème? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que tout a changé du jour au lendemain? Satan, déguisé en serpent, est venu séduire Ève. par ses paroles. Lise, on a parlé qu'il est descendant d'Ève, mais nous aussi, hein, on est tous descendants d'Ève. Il a influencé au point qu'il a perdu le sens de la réalité de sa vie et de ses privilèges. Elle a commencé à vouloir goûter le fruit interdit et voulait avoir plus que ce que Dieu lui avait déjà donné. C'était déjà beaucoup. Elle, tous les jours, elle pouvait goûter un nouveau fruit, un nouveau légume, n'est-ce pas? Voir un nouvel endroit dans ce magnifique paradis. Elle a cru au mensonge de Satan, qui vraiment, il ne voulait pas son bonheur, il voulait son malheur. Lui, il disait, mais Dieu vous cache quelque chose, c'est louche, là, c'est pas tout à fait ça. Il vous a dit ça, mais il voulait dire autre chose. Et il a créé en elle le doute que Dieu n'était pas honnête avec eux, que Dieu leur cachait quelque chose. Et bien sûr, après, elle a influencé Adam, et tous les deux sont tombés dans le panneau de la désobéissance. Les résultats, nous les connaissons très bien. Il était catastrophique pour eux et pour toute la race humaine. Depuis, le mécontentement est rentré dans le cœur de l'homme et de la femme et on continue à croire aux mensonges de Satan. J'ai lu le témoignage d'une missionnaire à ce sujet qui disait « Lorsque mon mari et moi nous sommes partis comme missionnaires, j'étais concernée par la croissance du matérialisme dans notre société. » Elle était nord-américaine. Mais il m'est venu à l'idée que moi, je n'étais pas vraiment matérialiste, que je pouvais me débarrasser des choses matérielles. Nous étions partis avec presque rien, en laissant tout derrière nous. Dans le champ missionnaire, nous habitions un logement très modeste. Mais graduellement, les sentiments de mécontentement ont commencé à prendre racine dans mon cœur. Et avant que je ne me rende compte, je crévais pour de belles choses et vraiment, j'étais mécontente. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux sur ces choses-là et ça m'a troublée. Donc, le matérialisme n'était pas nécessairement de vouloir avoir des choses, mais aussi de les désirer. Hein? Intéressant comme détail. Je me suis sentie coupable du matérialisme. Le Seigneur a mis le doigt sur mon mécontentement. J'ai dû me repentir et lui demander vraiment pardon pour l'idole que j'avais commencé à voir dans mon cœur. Dieu a attiré mon cœur de nouveau à lui et le contentement a suivi, basé sur lui et pas sur les choses. Le fils de l'homme, dit le prophète Ézéchiel, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ceux qui les font tomber dans l'iniquité. Combien nous devons constamment examiner notre cœur, où est attaché notre cœur, vers quoi, vers qui. Un autre exemple de mon contentement, c'est Sarah, la femme d'Abraham, qui est une personne, pourtant, qui est mentionnée dans la Bible comme une personne de foi. Cependant, elle a douté des dieux, des intentions de Dieu. Regardez à quoi je veux attirer votre attention. Ce qui nous arrive dans notre vie, ce qui ne nous arrive pas, on dit, ah, mais pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Il ne m'aime pas, n'est-ce pas? C'est ça la subtilité de la chose dans le mécontentement. Donc, Sarah et son mari, bien sûr, on n'avait pas d'enfant, on savait, le temps passait, Dieu avait donné une promesse. Et à un certain moment, Sarah, non, je ne peux plus attendre. Il faut que je prenne les choses en main. Il faut que nous, on se débrouille sans Dieu. Finalement, c'est ça qu'elle a dit, en disant à son mari, Abraham, de prendre sa servante et de coucher avec elle pour avoir un enfant. Et regardez, elle accuse même Dieu. Dans Genèse 16, 1 à 6, on voit, Sarah dit à Abraham, « Voici, Dieu m'a rendu stérile. » Dieu m'a rendu stérile. C'est une accusation, n'est-ce pas? Elle blâme Dieu, alors que Dieu avait promis de leur donner un enfant. Il avait son plan, ça allait venir en son temps, mais elle a douté de Dieu. Et ça dit beaucoup, hein? Dieu m'a rendu stérile. Elle accusait donc Dieu. Elle désirait avoir un enfant et elle voulait l'avoir tout de suite. Pourtant, Dieu répétait sa promesse dans Genèse 13, 16, 15, 4 à 5. « Je rendrai, Dieu avait dit, ta postérité comme la poussière de la terre. » Comment? Par un enfant qu'il allait leur donner. Les résultats de son mécontentement étaient la naissance d'Ishmaël, les conflits et la guerre entre Juifs et Arabes qui durent jusqu'à aujourd'hui. Hein? Si vous écoutez vos nouvelles, chaque jour, on parle de la Palestine. D'ailleurs, on a changé le nom. Palestine, c'était tout Israël. Israël et le Palestinien, maintenant, on a séparé les choses. Il y a la guerre jusqu'à aujourd'hui. Et on se demande comment ça va finir, si ça va finir. Un geste ponctuel, sans réflexion et à cause du mécontentement de notre État présent, risque de nous amener très, très, très loin. Et parfois, on peut réparer les choses et parfois, on ne peut pas les réparer. Les conséquences peuvent être plus ou moins graves pour nous et pour les autres. Et parfois, il y a des séquelles qui restent toute notre vie. Et non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Voyez-vous combien il est important de veiller sur nos sentiments qui risquent de nous conduire à prendre de telles décisions qui sont parfois très graves. Souvent, la racine est le mécontentement. Nous agissons parfois comme les enfants qui veulent quelque chose et tout de suite. La plupart de vous, je suppose, vous êtes mère et grand-mère et vous avez eu des petits-enfants ou des enfants qui viennent vous dire « Mamie ou grand-maman ou maman, je veux ça. » Mais attends un instant, je suis... Mais maman, tout de suite! Vous et moi, nous faisons la même chose. Dieu, tout de suite! Je ne le veux pas, mais je vais faire ma colère, là. Ou je vais prendre les choses en main. Ma mère me disait, on parlait ce matin à table chez Anne avec les autres dames, que vraiment... On grandit avec des proverbes. En tout cas, moi, j'ai grandi avec des proverbes. Yolande faisait la remarque qu'ici au Québec, on ne parle pas beaucoup les proverbes. Mais mon père venait de Constantinople. Les Grecs disent jamais Istanbul. C'est notre Constantinople, le nom grec. Et il me disait toujours des proverbes. Mais ma mère aussi avait ses propres proverbes. Et elle parlait d'une femme qui, une fois, dans son village, voulait se marier et voulait se marier tout de suite. Et elle disait à sa mère, « Je veux un mari et je le veux tout de suite. » Hein, c'est pas possible, ça, de vouloir un mari, de l'avoir tout de suite. Ça prend quelque temps, quand même, de se préparer pour le mariage. Mais souvent, on agit comme ça avec Dieu. Je veux un mari et je le veux tout de suite. Donc, quels sont les sujets de notre mécontentement? Cette année, j'ai fait mes 40 ans d'Afrique, on peut dire, d'expérience en Afrique. Et en travaillant en Afrique et en voyageant un peu dans plusieurs pays dans le monde, non seulement en Afrique, mais en Asie, en Amérique du Sud, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup de gens, et j'ai vu leur valeur dans la vie. Et vous savez, tout est relatif. J'admire mes sœurs en Afrique, je reviens, j'étais en Afrique encore au mois d'août et septembre, je suis revenue début septembre. Je les admire, des femmes, la présidente des femmes de nos églises au Bénin, de mouvement de femmes. J'ai une belle photo où derrière sa maison, elle a des chèvres, elle élève des chèvres, pour envoyer ses enfants à l'école. Elle faisait sa cuisine sur trois pierres, du bois en dessous, dans sa cour. Mais Benoît, c'est une femme contente. Je ne l'ai jamais entendue se plaindre. Je vois des femmes, je travaille avec des veuves. Maintenant, j'ai commencé des projets de veuves au Burkina Faso, au Niger. Et des veuves qui n'ont absolument rien, pas une retraite. Le mari n'a rien laissé, il est parti. Parfois, ce sont des femmes co-épouses, des maris polygames. Ils sont là avec 5, 10 enfants. Et ils n'ont presque rien. Mais je ne les entends pas se plaindre. Et pour moi, c'est un défi constant, un exemple incroyable. Vous savez, tout est relatif. Je sais, je reviens au Canada, j'ai besoin de bottes, j'ai besoin de manteaux. En Afrique, j'ai besoin d'un pagne, de sandales, et c'est fini. C'est tout simple. Tout est relatif, bien sûr. On a besoin de notre chauffage ici, on a besoin d'eau chaude. En Afrique, je me lave à l'eau froide, ce n'est pas un problème. Bien sûr, on a des besoins, mais parfois, vous savez, on veut plus, et on veut plus, et on veut plus. Donc, j'admire ces gens qui m'enseignent tous les temps d'être contente avec ce que j'ai. Par exemple, aussi les Africaines, pour parler d'elles, elles n'écrivent jamais à l'accouchement. J'assistais à l'accouchement de ma dernière fille qui est missionnaire au Niger. Au Niger, à Niamey, et le gynécologue qui était gynécologue de l'armée qui l'a accouchée parce qu'elle pleurait, parce qu'elle criait. Donc, tu cries pas. Parce que les Africaines ont appris de ne pas crier quand elles accouchent. Elles souffrent, comme vous et moi, mais elles n'ont pas droit de crier, de pleurer. Bien sûr, même les enfants, on les apprend, on les punit, mais il ne faut pas qu'ils crient, il ne faut pas qu'ils pleurent. Et bien sûr, ça vient aussi de l'influence de l'islam qu'on dit Inch'Allah. C'est que Dieu permet hein, des malheurs, n'importe quoi, on accepte dans la vie. Mais eux, ils ne connaissent pas Dieu. Nous, on connaît Dieu. et parfois on est vraiment, on n'a pas une bonne attitude envers lui. On peut douter de Dieu lorsque les événements durs nous arrivent, des événements qu'on ne s'y attend pas. Une maladie, la perte d'un être cher, comme nous avons chanté tout à l'heure, le départ de quelqu'un, un divorce, on me dit que c'est pire que la mort. Je ne sais pas, je ne suis pas passée par là, mais il y a des personnes peut-être parmi vous, des femmes, qui ont passé par le divorce. Et c'est vraiment très, très dur. Nous pouvons paraître contentes extérieurement, mais avoir des plaintes intérieures et des murmures que Dieu entend et que Dieu connaît. Et le contentement n'est pas une fuite devant la réalité ou la négation de nos désirs. C'est une valeur spirituelle, une qualité du disciple du Christ, a dit quelqu'un, et surtout, c'est une bénédiction. Dieu nous encourage à être libres face à nos besoins parce qu'il nous donne l'assurance qu'il y a. Il est là toujours pour pourvoir à nos besoins. Il s'occupe de nos besoins. Il s'occupe de nous. Et ça, il faut qu'on le mette dans la tête. Qu'il s'occupe de nous, qu'il nous aime. Un, deux, ça fait un, ça fait deux, n'est-ce pas? C'est la même chose. Dieu nous aime, il ne faut pas qu'on oublie ça et qu'il s'occupe de nous. Dieu seul est capable de nous satisfaire et il connaît notre cœur. Il ne va pas forcément répondre à nos désirs, par contre. Il répondra toujours à nos besoins. Il le sait. Nous, les femmes, nous sommes souvent mécontentes à cause de notre apparence physique, de notre taille, de la forme de notre corps, de la grandeur de notre nez, de la couleur de nos cheveux. L'industrie de l'esthétique, de la mode, nous trompe et nous fait envier la femme idéale, n'est-ce pas? Nous sommes attirés par l'aspect physique qui nous présente le mannequin. Et cela devient une obsession. Je me souviens, lorsque j'étais adolescente, je voulais être plus grande. J'étais la dernière de trois enfants, la seule fille. Et les années passaient, je ne grandissais pas. Ma grand-mère vivait avec nous à ce moment-là, maternelle. Et je disais, oh, grand-maman, je ne vais jamais grandir, je vais être plus grande. D'ailleurs, ça m'arrive, je vais dans les conférences ici, c'est formidable, vous me voyez. Mais parfois, j'arrive dans les hôtels où on a une conférence, ou n'importe, vraiment, je suis là derrière. Et il faut qu'ils amènent un tabouret, que je puisse me lever. Et je dis, ça y est, vous me donnez encore mon complexe, n'est-ce pas? Il faut que je me lève plus haut pour pouvoir vous voir. Mais j'avais cette... Bon, je ne l'ai plus maintenant, je blague. Mais à l'époque, vraiment, c'était une obsession. Je veux être plus grande, je veux être plus grande. Et ma grand-mère disait, t'inquiète pas, Soula, jusqu'à 20 ans, les filles grandissent encore. Oui, mon œil, comme disent les Français. Non, je n'ai jamais grandi plus. Peut-être là, j'ai rétréchi avec les temps. Mais voyez, ça peut devenir une obsession. Je veux être plus grande, je veux être plus belle, je veux être plus mince. On connaît, on parle notre langage. Là, on est entre nous, là, il y a quelqu'un, un homme derrière, mais tu ne nous écoutes pas, hein, Billy? Billy, tu fermes tes oreilles. Dieu nous a créés tels que nous sommes et nous devons accepter le corps qu'il nous a donné. David a exprimé cela, il a compris, pourtant c'était un homme. Hein? Et dans le psaume 139, il dit, je suis une créature merveilleuse. Le bonheur, c'est de connaître ses limites et de les aimer, a dit quelqu'un. Connaître ses limites, ne pas les ignorer. Je suis forte, je suis petite, je suis ceci, cela. Je le connais, je le vois, mais je les accepte. Les blessures de l'enfance aussi peuvent être un obstacle à notre contentement. Nous pouvons vivre le présent en regardant toujours en arrière sans pouvoir avancer vers l'avant. Et je rencontre des centaines de femmes dans une année. Cette année, je ne sais même pas combien de centaines de femmes j'ai rencontrées à travers l'Afrique, l'Europe et ici. Et vraiment, je rencontre les mêmes problèmes. Beaucoup, beaucoup de femmes vivent dans le passé. Récemment, j'étais pour une conférence en Grèce, là au mois d'octobre, et je parlais avec plusieurs femmes. On a parlé sur le thème de la liberté, être libre en Christ, un merveilleux thème aussi. Et j'ai vu plein de femmes qui étaient encore enchaînées par leur passé. Et c'est vraiment un obstacle à notre contentement. Quelqu'un a caractérisé cela comme un auto-sabotage. On fait du mal à nous-mêmes, n'est-ce pas, en gardant les choses du passé. On se fait mal. On se limite dans notre développement et dans notre épanouissement parce qu'on n'emmène pas nos blessures à Dieu pour les guérir. Si nous gardons encore dans notre mémoire les scènes du passé qui nous ont blessés, et beaucoup d'entre nous, peut-être, oui, nous avons eu des scènes qui sont là encore, peut-être devant nos yeux. Je rencontre des femmes qui ont été abusées, violées, des jeunes filles ou autres, par même des membres de leur famille. Et ces choses-là restent, sont ancrées, sont enracinées. Mais en tant qu'enfants de Dieu, il faut qu'on les apporte au pied de la croix. En parlant d'enfants de Dieu, je ne vous connais pas. Je ne sais pas si vous êtes toutes des enfants de Dieu, je l'espère. Peut-être il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur et on ne veut pas aller plus loin, on ne peut pas parler de vivre le contentement sans avoir Christ à nous. Et je vous encourage aujourd'hui d'écouter la parole de Dieu, quelque chose qui va vous parler, ou de venir me trouver dans une pause au moment du midi. Et si vous avez besoin que je prie avec vous, je suis prête à le faire. Mais je vous exhorte, je vous lance le défi de donner votre vie au Seigneur. Je donnais ma vie au Seigneur quand j'avais 14 ans, je ne l'ai jamais regretté. C'était la plus grande découverte de ma vie. Et je le loue pour ce qu'il a fait dans ma vie, et d'abord parce qu'il m'a sauvée. Je ne l'oublie jamais comment il m'a amenée au Seigneur. Donc, en tant enfant de Dieu, on a des blessures, mais on peut amener ces blessures à Dieu. Et il les règle. Et lui-même, il efface toutes ces choses, même des péchés les plus graves. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Quand j'essaye d'expliquer parfois aux gens que Dieu non seulement pardonne, mais il oublie, on me dit, mais Dieu ne peut pas pardonner, ne peut pas oublier. D'accord, il pardonne, mais il ne peut pas oublier, il est Dieu. Mais oui, parce qu'il est Dieu, il choisit de vouloir oublier et il le fait. Puisqu'il me le dit, je le crois. Autrement, je ne peux pas avancer dans la vie si je ne crois pas à la lettre, à la parole de Dieu. Et si on vit cela, on est libéré. Il faut régler ces choses avec Dieu. Il ne faut pas les laisser traîner parce que ça devienne un cancer dans notre vie spirituelle. Une autre chose qui peut être un obstacle pour notre contentement, c'est l'âge. On vieillit tout, hein? Je ne sais pas si quelqu'un va rester jeune toute sa vie. Non, on essaye de nous faire croire que... Maintenant, j'ai écouté l'autre jour la radio qui disait qu'on va trouver la réponse pour être éternel, qu'ils vont prendre notre cerveau quand on meurt, et ils vont le mettre dans une machine et ce cerveau va vivre, etc., éternellement. Parce que quoi? Pourquoi les gens veulent vivre plus vieux? Pourquoi les gens veulent vivre éternellement? Parce que Dieu nous a créés pour cela. Dieu nous a créés pour vivre éternellement avec lui. Donc, l'âge peut aussi devenir un obstacle. Le vieillissement, à moins que le Seigneur vienne nous prendre jeunes, comme il a pris mon mari jeune, souvent, on ne parlait pas de la vieillesse, mais on disait on ne va jamais prendre des retraites, etc., etc. Le Seigneur l'a pris assez jeune. Mais à moins que le Seigneur vienne nous prendre plus jeunes, les gens vivent plus longtemps aujourd'hui. Et on ne peut pas éviter la vieillesse. Mais apprendre le contentement et vivre la vieillesse aussi avec le contentement, c'est une bénédiction pour les autres. J'admire les personnes âgées dans la Bible. Elles ont vraiment su garder leurs objectifs et leur vie était active. Elles ont toujours marché avec le Seigneur. Nous parlons d'Anne. On va baisser. D'accord. Merci beaucoup. C'est mieux comme ça? C'est mieux? Mais voir aussi que l'heure avance. Et heureusement que la pendule est là. On parle d'Anne dans le Nouveau Testament, tout au début du livre de l'Évangile de Luc. À l'âge de 84 ans, une veuve qui a vécu avec son mari à peine 7 ans, donc toute jeune, elle était veuve, elle est rentrée au temple, elle servait le Seigneur jour et nuit, elle était contente, elle a vu le Seigneur, et elle ne disait pas « pauvre moi ». Combien de gens, je trouve, que vraiment, ils vivent avec ce mode, on peut dire, pauvre moi, pauvre moi, pauvre moi. Anne, ce n'était pas une femme aigrie, une vieille femme aigrie. C'est beau de voir des personnes âgées qui vieillissent bien, mais d'autres vieillissent mal. Et vraiment, c'est dur de voir des gens comme ça qui radotent, on peut dire, ou qui ne voient rien de positif dans leur vie. Mais la vieillesse, ça fait partie de notre vie. Personne ne veut l'éviter. Mais Anne n'était pas aigrie non plus par sa stérilité. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle avait perdu aussi son soutien financier en perdant son mari. Mais elle servait Dieu. Elle était heureuse. Elle ne quittait pas le temple. Et elle a eu la joie, le bonheur de voir le Seigneur Jésus bébé. Et je ne pense pas qu'il y a un autre personnage dans la Bible qui a vécu une spiritualité incroyable qu'Anne. Une vie entière consacrée dans la prière, dans la louange, sans se fatiguer dans la maison de l'Éternel. Luc nous dit, elle aussi, elle louait Dieu. Ce n'est pas une femme qui était pauvre au moins, la veuve depuis tant d'années. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. C'est ça notre rôle en vieillissant, de parler aux autres de notre Seigneur, de celui qu'on connaît, de celui qu'on a expérimenté toute notre vie. Alors qu'Anne pensait peut-être que c'était la fin de sa vie sans bénédiction, elle a eu cet immense cadeau que Dieu lui a donné de voir le Seigneur, peut-être de le prendre à ses bras et de dire, voilà le Fils de Dieu qui est venu et que je l'ai vu de mes propres yeux. Peut-être vous avez entendu parler d'une conférencière anglaise, mais qui vit aux États-Unis, Jill Briscoe, qui est un auteur aussi de très bons livres. Et son mari lui a dit un jour, « Est-ce que tu crois que tu es né au bon moment ?» Elle a répondu, « Mais oui, bien sûr. Est-ce que tu penses que Dieu te fait grandir à son rythme ?» Elle dit, « Ben oui. » Alors, il lui a dit, « Tu vas mourir au bon moment aussi. » L'horloge de Dieu, il a dit son mari, a toujours le temps exact. Lorsqu'on se confie en lui, on confie nos jours et nos années. Et vraiment, on sait que lui fait toutes choses belles à son temps. Mieux vaut, a dit quelqu'un, ajouter de la vie à nos jours que de jours à notre vie, je le répète. Mieux vaut ajouter de la vie à nos jours que des jours à notre vie. Ces exemples, étendant dans la Bible, nous montrent que notre état de mécontentement vient de nos doutes vis-à-vis de Dieu. Nous questionnons ses actes dans notre vie, les choses qu'il choisit à nous donner, et qui n'est pas souvent d'accord avec nos plans et nos attentes. Mais la Bible nous révèle le caractère et la personne de Dieu que nous sommes appelés à connaître et à lui faire confiance. Vous ne faites pas confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? C'est la même chose avec nous et la parole de Dieu. Le but essentiel des évangiles, de la Bible, est de nous aider à voir le caractère de Dieu qui est devenu réel, personnel et compréhensible à Jésus-Christ. Ce que nous voyons en Jésus-Christ faire, dire, pleurer, chercher, souffrir, aimer, c'est ce que Dieu a toujours voulu et fait. Si vous ne pouvez pas aimer Dieu, essayez de voir Jésus-Christ. Là, il s'est révélé comme quelqu'un qui donne son amour sans limite. C'est lui vers qui nous pouvons aller pour nos doutes, avec nos doutes, avec nos déceptions, avec nos mécontentements. Et c'est lui dont Blaise Pascal a dit, nous pouvons nous approcher de lui sans crainte. À qui d'autre nous pouvons nous confier sans être déçus? Qui est Dieu pour nous? Qui est Dieu pour vous? Qu'est-ce que sa parole représente pour vous? L'enseignement biblique sur Dieu est clair, mais où est-ce que se situe notre foi aujourd'hui? C'est une question que je vous pose et c'est vous seul qui allez répondre. Quelle est votre connaissance de Dieu? Dieu ne change jamais son plan pour nous. Et Jérémie dit, c'est un plan parfait, et c'est un plan d'amour et de paix. Et la volonté de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, est bonne, agréable et parfaite. Certes, je répète, il ne correspond pas toujours à nos plans et à nos désirs, mais lui, il sait ce qu'il fait. Mes pensées, dit Dieu dans Ésaïe, ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel, et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous sommes libres et contentes lorsque nous abandonnons nos désirs et nos droits, les droits que nous pensons que nous devons avoir dans la main de Dieu. Et Jacques, l'apôtre Jacques, dans son épître, nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Seulement la connaissance personnelle de Dieu révélée dans la Bible nous permet d'avoir confiance pour tout ce qui nous arrive dans la vie. C'est la foi au Dieu d'amour qui nous donne la force d'accepter les circonstances difficiles dans notre vie et qui nous permet de ne jamais douter de Dieu. J'ai béni Dieu pour cette grâce qu'il m'a donnée de pouvoir relever la tête alors qu'il venait de prendre mon mari si rapidement. La foi vient de la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup ce verset dans Habacuc qui dit, et c'est une paraphrase, « Même si je devais être réduit à la grande extrémité, au point de ne pas savoir où trouver ma nourriture nécessaire, même si je devais regarder autour de moi et que je trouve une maison vide et un champ désolé et que je vois le manque de discipline divine, là où je voyais auparavant les fruits de l'abondance de Dieu, malgré tout cela, je veux me réjouir en l'Éternel. » C'est incroyable, n'est-ce pas? Voilà un verset qui peut nous encourager, qui peut nous aider de vraiment fixer nos regards sur le Seigneur qui est accepté, même lorsque la maison est vide de nourriture, même lorsqu'il y a des choses difficiles qui nous arrivent. Un cynique demanda à un chrétien de longue date qui souffrait énormément depuis 20 ans, « Que pensez-vous de votre Dieu maintenant ?» Il savait que cet homme était chrétien. Et cet homme pieux lui a répondu, je pense à lui plus que jamais. Qu'est-ce que je pense de Dieu? Je pense tout le temps de Dieu. La douleur peut être le moyen qui va nous approcher de Dieu. Quand le coup répété de l'adversité nous ôte la santé, les amis, l'argent, d'autres avantages, Dieu alors devient tout pour nous. Et nous l'aimons non seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est surtout, ce qu'il représente pour nous. Dieu ne veut jamais le mal. Et ça, c'est la première chose importante dans ce message que je voudrais qu'on garde. Jamais douter de Dieu, jamais Dieu veut le mal. Mais le bien pour ses créatures, pour chacune de nous. Parfois, nous allons jusqu'au bout, au point de penser que Dieu a quelque chose contre nous-mêmes. Et que Dieu a des enfants favoris, qu'on voit la personne à côté de nous, notre ami, qui est bénie à nos yeux, on pense qu'elle est bénie plus que nous. Et j'ai lu l'histoire d'un pasteur d'une église quelque part qui avait mis sa maison en vente. Et il voulait vendre cette maison pour changer, etc. Et sa maison ne se vendait pas. Et toute une année est passée, sa maison ne se vendait pas. Et un membre de son église a décidé de vendre sa maison. Il a mis la pancarte devant. La maison était vendue en 3 jours. Alors, c'est lui, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as vendu ta maison en 3 jours et moi, ça fait 1 an que j'attends. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que tu es le favori de Dieu? Voyez-vous, même un pasteur peut penser à ça. Non, on est tous des favoris de Dieu, c'est ça qu'il disait mon mari. Dieu n'a pas d'enfants première ou deuxième classe. C'est nous qui faisons les classes. C'est nous qui séparons les gens, n'est-ce pas? Mais Dieu nous aime tous, toutes, avec le même amour. Il ne faut jamais, jamais douter de cela. Il y a des gens qui disent et qui les croient. Donc c'est ça, que Dieu n'a pas des enfants favoris. Si on lit le psaume 73, ce psaume-là nous dit que ce croyant du psaume Asaph, pourtant, il a douté de Dieu. Il a dit, il observait les gens autour de lui qui étaient mieux, qui avaient des bénédictions. Et lui, il peinait à être discipliné, à obéir à Dieu, à vivre une vie agréable à Dieu. Et les autres vivaient une bonne vie alors que lui, il avait tous les malheurs. N'est-ce pas? À la fin, il est rentré dans la présence de Dieu et il a compris. Voyez-vous, c'est la présence de Dieu qui fait toute la différence dans notre vie. C'est là, en sa communion avec lui, qu'on comprend les choses, qu'on les accepte, même si on pleure, même si ça fait mal. Dieu ne veut jamais vraiment le mal pour nous. Regardez Pierre, l'apôtre Pierre, a risqué à tomber sur ses pièges en Jean 21, quand il a eu ce tête-à-tête avec Dieu, avec le Seigneur, après son réuniment. Et le Seigneur lui a dit, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Il se tourne derrière, il voit Jean qui était plus jeune, et lui, Seigneur, et qu'est-ce qui va se passer avec lui? Et le Seigneur lui laisse faire, Jean. Moi, je m'occupe de Jean. Mais toi, suis-moi. Laisse faire ce que Dieu fait avec l'autre. Vous savez, après le départ de mon mari, ma ma meilleure amie de mon âge, plus âgée que moi, son mari a été malade de cœur. J'ai eu peur pour lui, j'ai eu peur pour mon amie, je ne voulais pas qu'elle devienne veuve. Beaucoup d'autres personnes, j'entends, ils ont eu des problèmes cardiaques, ils ont été opérés, ils ont vécu. Je ne suis pas jalouse parce que ces gens-là ont encore leur mari et moi, Dieu a pris mon mari. Mais je ne comprends pas toujours pourquoi il a pris. Mais je l'ai accepté. Je n'ai jamais douté de l'amour de Dieu pour moi, même au moment le plus dur sur le corps de mon mari qui était devant mes yeux parce qu'on parlait quand il est parti. On n'a même pas eu le temps de l'amener à l'hôpital. Dieu, parce qu'il est Dieu, on ne peut pas douter de ses actions dans notre vie. Il permet des choses qui nous dépassent. Mais il a un plan et on l'accepte. Mais vous savez, je parlais des gens qui étaient mécontents individuellement, hein, des exemples, on peut dire individuels, mais aussi on a des exemples de mécontentement collectif. Et il y a des grandes conséquences. On peut s'influencer l'un l'autre. Le peuple d'Israël, j'ai relu récemment encore les livres de la Pentateuch, et dans ces livres, on voit l'histoire du peuple d'Israël. Nous trouvons maintes et maintes exemples qui nous rappellent combien parfois les gens collectivement doutaient de Dieu et l'un influençait l'autre. Vous vous souvenez? Alors qu'ils ont eu des événements difficiles, ils ont pensé que Dieu était injuste envers eux et le jugement de Dieu même venait sur eux. Le peuple d'Israël a douté de Dieu, a douté des intentions de Dieu et il trouvait que Dieu n'agissait pas justement envers eux. Ils préféraient être esclaves en Égypte au lieu de vivre la liberté que Dieu leur donnait. Il évitant que l'incrédulité, le mécontentement vont ensemble. Ingratitude, mécontentement. Et dans la page de l'Ancien Testament, nous avons des exemples, nous découvrons un peuple qui était gâté des bénédictions de Dieu, surtout dans cette période de l'Exode, et pendant leur marche vers le pays de Canaan où Dieu pourvoyait chaque jour à leurs besoins. Cependant, c'était un peuple mécontent et l'un influençait l'autre. Attention, quelle est notre influence à côté de nous? Si nous, nous sommes des gens mécontents, si nous sommes une femme mécontente, on va influencer le mari, on va influencer les enfants, on va influencer notre entourage. Si nous sommes une assemblée mécontente, on va s'influencer aussi pour cela et on va douter de Dieu. Il y a aussi un phénomène intéressant que j'ai découvert dans mes études. Lorsqu'on doute de Dieu pour quelque chose, pour une raison que ce soit, pour une situation présente qui nous déplaît, nous sommes inclinés à penser au passé et à le regretter le passé. Les Hébreux étaient des champions pour regarder leur misérable vie d'esclave en Égypte comme une page glorieuse de leur vie. Ils étaient des esclaves, ils faisaient des briques, ils travaillaient jour et nuit. Et là, ils voulaient retourner en Égypte. Parce que pourquoi? Ils étaient mécontents là et ils pensaient au passé. En tant qu'esclaves, ils souffraient. Là, ils ont la liberté et ils ne jouissent pas de leur liberté. Et pendant les 40 ans dans le désert, nous voyons la fidélité de Dieu dans leur vie. Chaque jour, ils pourvoyaient la manne, bien sûr, l'écaille pour la viande, mais eux, ils voulaient l'ail et les oignons de l'Égypte. Bien sûr, l'ail et l'oignon, c'est bon pour la santé. Mais on ne peut pas vivre, on ne peut pas manger de l'ail et de l'oignon tous les jours. Et même, ils parlaient contre Dieu dans le psaume 78, on voit, ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une tente dans le désert? Voici, il a frappé les rochers et les eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourrait-il nous donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu fut irrité, dit la Bible. Et un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. Le mécontentement collectif, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Où est-ce qu'on en est ce matin? Est-ce que vous et moi, on a confiance au secours de Dieu pour n'importe quelle situation dans notre vie? En plus, ils disaient, ils étaient mécontents parce que ils se sont gâtés, mais ils ont dit, oh, nos yeux ne voient que de la manne. Nos yeux ne voient que de la manne. Qu'est-ce que vous voyez encore dans votre vie que vous dites, oh, j'ai que ça. Il n'y a que ça. Je vois que ça chaque jour. Vous êtes tellement habitué à la bénédiction, aux bénédictions de Dieu, que vous ne voyez plus sa main. Que des fois, il se révoltait contre lui dans le désert. Que des fois, il irritait dans la solitude. Il est nécessaire de tenter Dieu. Voyez-vous, quand vous et moi, on est mécontents, on tente Dieu. Et ils ont provoqué le Saint d'Israël. Et il ne se souvenait pas de sa puissance. Il ne se souvenait pas de sa puissance. Du jour où il les a délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et des prodiges dans les campagnes de Tsoan. Ça peut nous arriver. Deux garçons étaient en train de manger des raisins. Un d'entre eux a dit « Oh, qui sont doux ces raisins !»« Peut-être, a répondu l'autre, mais ils ont des pépins. » En se promenant dans un jardin botanique, le premier garçon s'exclamait « Regarde les grandes belles roses !» L'autre a dit « Mais elles ont des épines !» Il faisait chaud, alors les garçons ont acheté une boisson. Après quelques minutes, le premier garçon a dit, il s'est plaint, il dit « Oh, ma canette est déjà à moitié vide !» L'autre a dit « Mais la mienne est encore à moitié pleine !» C'est exactement l'attitude du peuple de Dieu. Quelle tragédie! Il méprisait la bonté et la générosité de Dieu. Mais Dieu est patient, c'est ça qui est merveilleux. Vous allez râler, comme disent les Français, vous allez vous plaindre, vous allez murmurer, et Dieu est patient. Patient à ni notre rébellion, ni notre mécontentement ne lui font changer son attitude envers nous. Il ne va pas dire, mais toi tu es comme ça, ben voilà, je te donne une tape sur la tête. Non. Il insiste à nous faire du bien, parce qu'il nous aime, parce qu'il est fou amoureux de nous. Et il ne peut pas nous faire du mal. J'étais frappée de nouveau dans ma lecture des Écritures de sa réaction au mécontentement au peuple de Dieu. Lorsqu'ils reconnaissaient leurs péchés, lorsqu'ils voyaient qu'ils avaient des doutes, à nouveau, il montrait sa faveur envers eux. Il intervenait. Et on lit dans Ésaïe, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il va s'élever. » Pour vous montrer sa miséricorde. L'Éternel est un Dieu juste, heureux de ceux qui croient, qui espèrent en lui. Mais il y a un avertissement dans la parole de Dieu. Nous pouvons tirer la corde un peu trop parfois. Et faisons attention. Ne pas tirer la corde trop loin. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il y aura un jugement pour ça. Un jeune couple avait, je vais finir ici avec cette histoire, déménagé à Banff. Vous savez, on parle tous de Banff, à l'Alberta, ce magnifique endroit. J'ai eu l'occasion de le visiter il y a 3-4 ans, quand je faisais des réunions par là. C'est un paradis de vacances, n'est-ce pas, situé au milieu, au cœur des grandes rocheuses canadiennes, entouré de montagnes majestueuses. La beauté vraiment avait impressionné ces jeunes couples quand ils sont allés là-bas, la neige... Et l'été, au printemps, les fleurs de partout, les feuilles dorées en automne. Et ce couple donc a déménagé, a dit, voilà un bon endroit où on peut aller vivre, vraiment, nous installer et vivre. Pendant la première année, chaque fois qu'ils sortaient de leur maison, ils voyaient les montagnes. Oh, magnifique, mais magnifique, mais magnifique. Ils regardaient la beauté, ils étaient contents. Mais ce magnifique paysage leur est devenu tellement familier qu'ils se sont fatigués de ce paysage. Et à un certain moment, ils ont dit, ben, on a assez de cet endroit-là. Et ils ont voulu déménager. Combien de fois, nous, vous et moi, on ne s'habitue pas des bénédictions de Dieu, des grâces de Dieu, de tout ce qu'il nous donne, et on n'est pas reconnaissant, on n'est pas content. Ça nous arrive, c'est là. Mais Dieu continue à nous aimer et à nous poursuivre avec ses bénédictions. Donc, le contentement est un don qui vient de Dieu. C'est lui la source, c'est ça que nous allons voir tout à l'heure. Merci pour votre patience. J'ai pris 5 minutes de plus.